Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
Les autres titres de l'actualité.
Un député en réanimation, cet élu du Haut-Rhin a contracté le coronavirus. Deux salariés du Palais Bourbon sont également touchés. Les conséquences économiques sont chaque jour plus importantes. Reportage sur la Côte d'Azur où de nombreux salons sont annulés. Le bilan des E3C, épreuve anticipée du nouveau bac. Et puis, qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts, qualifiés pour la finale de la Coupe de France.
Et si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux, toutes féministes, c'est le hashtag, le mot-clé que vous propose France Inter aujourd'hui pour vos témoignages, pour vos questions à nos invités ou tout simplement pour partager un moment avec nous.
France Inter.
Oui, il y a encore dans les entreprises des hommes qui se conduisent comme des prédateurs, choisissant le plus souvent des victimes, jeunes, en situation précaire, des comportements qui perdurent malgré l'obligation depuis le 1er janvier 2019 de désigner dans chaque entreprise un référent harcèlement sexuel, en général un représentant syndical chargé de recueillir la parole des victimes et d'alerter la direction. Travail encore difficile, même si Claire Chaudière, plus de 2 ans après la vague MeToo, la parole se libère.
Le dernier témoignage, la dernière parole de victime recueillie date d'il y a moins de 48 heures, raconte Camille, élue CGT dans une grande entreprise lyonnaise. La détresse d'une jeune CDD harcelée par l'un de ses supérieurs.
Tu pourrais passer sous le bureau, monte-moi de ta culotte. Enfin, voilà, ce genre de propos, consternant mais classique. Des parfois, voilà, on leur demandait d'être sexy, gentil entre guillemets avec les clients, des gestes déplacés, de main aux fesses, c'est assez effrayant. Ce sujet monte, mais c'est vrai que c'est encore très très difficile.
L'arrivée d'interlocuteurs dédiés côté syndicat, mais aussi côté employeur, et surtout la forte médiatisation de ces sujets auront donc permis de rompre le silence dans les entreprises. Mais trop d'affaires sont encore enterrées, soupire Marie, élue Sud dans le secteur des BTT.
Le cas le plus grave qu'on ait eu à traiter récemment, c'est un viol. Il y a très très peu d'affaires qui trouvent un écho. Il y a la remise en cause de la parole des victimes. Est-ce qu'elle n'a pas un intérêt à mentir? Entre cadres, ils se protègent, parce que le dédire, c'est aussi se dédire soi-même. Même, ça fait tâche de devoir virer quelqu'un. Ces gens-là, on les déplace.
Enquêtes et sanctions sont pourtant de plus en plus nombreuses, assurent plusieurs DRH de grands groupes, mais souvent tenues secrètes. Plus de transparence et une meilleure protection des référents harcèlement sont donc nécessaires, insiste le Haut Conseil à l'égalité, référents qui sont de fait devenus des lanceurs d'alerte.
Les mesures mises en place dans les entreprises pour lutter contre le harcèlement sexuel, c'est un article à lire aussi sur franceinter.fr et journée spéciale, donc toute féministe sur l'antenne d'Inter.
Il est 7h04, Agnès, la propagation du Covid-19 en France avec l'hospitalisation hier d'un député du Haut-Rhin.
Jean-Luc Retzer est en réanimation, son état est jugé préoccupant. Le coronavirus touche désormais tous les secteurs d'activité. 2 cas à la RATP annoncé hier, une agente sur la ligne 6 et un conducteur de bus. Un nouveau foyer détecté dans le Val d'Oise à Méry-sur-Oise. 9 personnes contaminées, dont une dans un état sévère. Et donc, le Palais Bourbon, à son tour gagné par l'inquiétude, avec 2 salariés contaminés et Sébastien Sabiron, le député de la 3e circonscription du Haut-Rhin, hospitalisé.
68 ans, gaulliste de progrès comme il se définit, Jean-Luc Retzer est membre de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. À ce titre, il était à Bruxelles il y a 2 semaines et devait se rendre en Croatie cette semaine. Déplacement annulé dimanche, le député se sent fiévreux. Hospitalisé à Mulhouse, il est dépisté positif hier au coronavirus. Inquiétude quant au nombre de personnes qu'il a pu croiser. Jean-Luc Retzer était présent dans l'hémicycle lors des questions au gouvernement il y a plus d'une semaine. Était-il déjà porteur du virus? Pas sûr. On peut malgré tout s'attendre à des dépistages parmi les députés et peut-être au sein du gouvernement présent au complet lors de ces séances de questions hebdomadaires. Ça va psychoter si même les politiques le chopent, s'inquiète un ministre en privé. Aujourd'hui, le restaurant et la buvette des députés resteront fermés. Une chance malgré tout depuis l'adoption hier du projet de loi organique de la réforme des retraites. Les couloirs du Palais Bourbon sont plus vides qu'à l'accoutumée, avec cette trêve parlementaire qui doit prendre fin le 23 mars au lendemain des municipales.
En France, le coronavirus a enregistré hier sa plus forte progression, avec 423 cas recensés et désormais 7 décès. La 7e victime est un homme de 79 ans, résident d'un EHPAD à Crépy-en-Valois, passé comme d'autres victimes par le centre hospitalier de Compiègne. Il avait été transféré il y a quelques jours au CHU de Lille. Cette accélération du nombre de cas a conduit hier Emmanuel Macron à avertir du caractère inexorable de cette épidémie. Il l'a dit lors d'une rencontre avec des chercheurs. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. ailleurs. Les bourses, reflet de l'inquiétude mondiale, moins 3% à l'ouverture ce matin à Tokyo, moins 3,5% pour le Dow Jones hier soir. 400 entreprises françaises ont à ce jour demandé des mesures de chômage technique. Cela concerne 6000 salariés, selon les chiffres révélés par la ministre du Travail. Les voyagistes demandent à être reçus en urgence par le gouvernement. Ils estiment que leur activité a baissé de 25% le mois dernier. Une baisse d'activité particulièrement sensible sur la Côte d'Azur, où plusieurs gros salons ont été annulés ou reportés. À Cannes, hôteliers, restaurateurs, agents de sécurité, traiteurs et autres professionnels constatent chaque jour les effets de la crise. Rémi Brancato.
10 000 personnes environ étaient attendues à Cannes à la fin du mois pour le MIP TV, le salon des programmes télé. Marc Ciocanini, chauffeur de taxi, comptait bien en profiter.
Dans les jours de festivités, on n'arrête pas. On brasse beaucoup de clients. Hein. On fait beaucoup de Nice-Cannes aéroport, Cannes-Nice aéroport. C'est assez bénéfique.
Avec le coronavirus, l'événement est annulé. Résultat, 20 chambres qui se vident à l'hôtel Le Florian.
Sur des congrès comme celui-ci, l'hôtel est complet. Ces nuitées, elles vont être perdu.
Mais Christian Giordano, le propriétaire également vice-président du syndicat des hôteliers, n'est pas inquiet. Le MIPIM, le salon de l'immobilier le plus important, avec plus de 25 000 professionnels, est seulement reporté au mois de juin.
Il faut garder la tête la plus sereine possible. La marque Cannes est suffisamment forte pour savoir se relever dans les meilleurs délais.
D'autant que les touristes devraient être au rendez-vous normalement cet été, mais en attendant, pour Régis Courvoisier, directeur de la communication du Palais des Festivals, il faut aider les entreprises qui devaient organiser ces salons.
Ce sont des fois des PME, des petites entreprises. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des engagements forts, que ce soit au niveau de la trésorerie, des reports de charges, pour les aider dans cette période. Il y a la protection des populations et puis la protection des emplois.
Quant au plus important, le festival de Cannes, au mois de mai, il n'est pas menacé pour le moment.
Reporter aussi le marathon de Paris et ses 60 000 inscrits, prévus le 5 avril, il est repoussé au 18 octobre. Les États-Unis, de leur côté, ont débloqué plus de 8 milliards de dollars pour lutter contre la propagation du virus. En Chine, enfin foyer de l'épidémie, le nombre de nouveaux cas est en légère hausse. 143 hier, dont 16 dus à des personnes rentrées en Chine après des séjours à l'étranger. Des cas de contamination importés, ce que redoutaient les autorités de Pékin. Un calme relatif règne ce matin sur la région d'Idleb, au nord-ouest de la Syrie, après l'accord signé hier entre les présidents turcs et russes. Le cessez-le-feu est entré en vigueur à minuit, après plusieurs jours d'affrontements meurtriers et l'exode d'un millier de civils. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 7h30.
Il est 7h09, Agnès, retour en France avec le bilan des premières épreuves communes anticipées du nouveau bac.
Les E3C qui ont relancé les manifestations contre la réforme dans de nombreux établissements. Les épreuves ont été perturbées, décalées, voire annulées. Les notes doivent être en principe validées par des commissions d'harmonisation au plus tard dans une semaine. Mais il reste quelques établissements où ces épreuves, Sonia Princé, n'ont pas pu avoir lieu.
Il reste une quinzaine d'établissements sur 1600 lycées, c'est-à-dire moins de 1%, qui n'ont toujours pas pu faire passer les E3C aux élèves. C'est le cas du lycée Jean Jaurès de Montreuil, près de Paris, comme l'explique Cédric, l'un des enseignants.
Pour la deuxième fois, les épreuves E3C ont été reportées suite à un blocus important, des blocus répétés des élèves et à leur refus aussi de se présenter aux épreuves. Tout ça doublé de la forte mobilisation des parents et des enseignants du lycée. Et c'est à reporter, on ne sait pas quand et où, parce qu'elles vont certainement maintenant être délocalisées.
Ces cas sont concentrés géographiquement, précise Florence Delannoy, secrétaire générale adjointe du SNPDEN, syndicat des chefs d'établissement.
C'est essentiellement quand même la région parisienne, les académies de Paris, Créteil et Versailles, et apparemment quelques établissements, c'est un ou deux, hein, à Marseille et puis dans le sud-ouest, plutôt dans la région de Montpellier.
Alors que va-t-il se passer si les épreuves ne peuvent pas du tout avoir lieu ?
Sans doute exactement ce qu'on avait proposé, c'est-à-dire tout simplement tenir compte du contrôle continu de la première partie de l'année. C'est-à-dire que, bon, paradoxalement, les manifestants ont obtenu exactement le contraire de ce qu'ils souhaitaient. Mais disons que très clairement, on peut parfaitement envisager de prendre la moyenne de l'élève dans les disciplines concernées.
Même si les épreuves se sont tenues dans la quasi-totalité des lycées, elles ont fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aux élèves, aux enseignants, aux proviseurs et donnent l'impression d'un immense gâchis.
L'enquête sur le déraillement d'un TGV hier matin en Alsace. 22 personnes blessées, dont le conducteur très sérieusement touché. Selon la SNCF, cet accident serait dû à l'affaissement d'un terrain. Laurent Kramer.
L'enquête va tout d'abord se tourner vers la maîtrise d'œuvre de l'ouvrage. Y a-t-il eu un défaut de conception ou de calcul lors des études géologiques préalables? Conçu aux abords d'une ligne à grande vitesse, ce talus est directement sous la responsabilité de la SNCF. L'enquête devra déterminer s'il s'agit d'un glissement de terrain profond ou superficiel que les équipes de surveillance de la SNCF auraient pu être à même ou non d'anticiper. Car au-delà des drones, des cheminots et des rames qui surveillent quotidiennement les 30 000 km de voies ferrées, une équipe spécifique est dédiée à la sécurité de ces ouvrages en terre. Mais face à la montée des aléas climatiques, la SNCF s'est également dotée d'un outil d'analyse développé avec Météo France, intelligence artificielle, qui avait permis jusqu'ici de repérer les talus les plus exposés aux accumulations d'eau avant qu'ils n'enclenchent des glissements de terrain.
Il est 7h12, une ambiance de feu hier soir au stade Geoffroy Guichard, Agnès, pour la renaissance des Verts.
Qui décroche une place pour la finale de la Coupe de France, ce qui n'était pas arrivé depuis 38 ans. Saint-Etienne en difficulté en championnat a battu Rennes 2-1, dont un but de Riyad Boutdebouz dans le temps additionnel. Et alors que la prolongation se dessinait, un scénario fou qui a fait chavirer de bonheur les 30 000 supporters stéphanois. Cédric Guillou.
Les supporters stéphanois ont chanté, exulté et pour certains, envahi la pelouse du stade Geoffroy Guichard au coup de sifflet final.
C'est beaucoup de bonheur ce soir. Une équipe qui s'est enfin battue. Ça va motiver tout le monde et ça va ressouder tous les amis de Saint-Etienne.
C'est un régal, Boutbouz. Il nous a libérés d'une grosse souffrance quand même.
Saint-Etienne tient sa finale grâce effectivement à Riyad Boutbouz, l'Algérien auteur du but décisif lors du temps additionnel. Très ému derrière.
Ce but fait du bien à tout un club, à tout un peuple et aussi à moi. Je suis très ému parce que depuis le début de saison, on ramasse. Et moi, personnellement, j'en ai pris dans la gueule. Et quand tu mets ce but-là, ça te soulage. Et c'est des moments inoubliables dans une carrière. Et franchement, voilà, je suis content de le vivre ici. Mon sentiment à moi, c'est le sentiment de tout le monde parce qu'on galère tous ensemble. Et aujourd'hui, quand on gagne ce match, c'est une délivrance.
Les Verts ne s'étaient pas qualifiés pour la finale de la Coupe de France depuis 38 ans. En 1982, ils avaient affronté et perdu au tir au but face au Paris Saint-Germain. Saint-Etienne, Cédric Guillou, France Inter.
Et rendez-vous donc le 25 avril au Stade de France pour une finale face au PSG.
Merci Agnès Soubiran.